Nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec le tennisman quadruple médaillé paralympique Mickaël Jérémiaz et l'animateur Frédéric Lopez pour l'émission Comme les autres. Vous allez comprendre que ce n'est pas comme les autres cette émission. Et puis il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino, puis le chanteur, que dis-je, le phénomène Bilal Hassani, nos indispensables de jeux vidéo et de la bande dessinée.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Frédéric Lopez.
Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Mickaël Jérémiaz.
Bonjour Philippe.
Frédéric Lopez, vous êtes animateur emblématique de France 2, faut-il vous présenter? Vous avez créé Rendez-vous Inter Inconnu, émission dont vous avez abandonné cette saison la présentation. Et ce soir sur France 2 à 21h, je l'ai dit, vous présentez une émission d'un genre nouveau, ça s'appelle Comme les autres. Pour comprendre le concept de l'émission, Frédéric Lopez d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Mickaël Jérémiaz? Parce que le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas comme les autres, tout en étant comme les autres.
Alors ce que je peux dire, c'est que ceux qui ne le connaissent pas encore vont se souvenir de lui pendant très longtemps, et ceux qui l'ont déjà croisé évidemment savent qu'il est assez unique. Donc Mickaël, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un grand champion, c'est le numéro un mondial en tennis en fauteuil. Voilà, il était porte-drapeau des derniers Paralympiques, l'équipe de France, et voilà, il a une association qui s'appelle Comme les autres. Il va vous expliquer l'objet de l'association, et m'a demandé d'être le parrain de cette association. Mais si j'ai accepté d'être le parrain, il fallait que je parte dans un séjour à sensations fortes qui mélangeait deux populations, 5 personnes valides et 5 personnes en fauteuil, et j'imaginais pas du tout ce que j'allais vivre.
Alors, je vais le dire, vous êtes sur un fauteuil, Mickaël, vous avez une femme que vous aimez, que vous avez rencontrée après votre accident, vous avez eu un enfant avec elle, c'est un cas très très rare. C'est quoi le but de votre association Comme les autres, Mickaël Jérémiaz?
Bah, Comme les autres, se propose un accompagnement social dynamisé par le sport et les sensations fortes, Frédéric en parlait, et c'est destiné à des personnes devenues handicapées à la suite d'un accident, et principalement des blessés à la moelle épinière, donc des paraplégiques, des tétraplégiques. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, moi j'ai rencontré ma femme après mon accident, ce qui est fréquent,
ce que vous
dites, plein
dans
de personnes handicapées qu'on la chance de rencontrer des hommes ou des femmes après leur accident et d'avoir une vie amoureuse. Et oui, j'ai eu la chance d'avoir un petit garçon, et effectivement, c'est pas toujours le cas, parce que ça peut faire partie des complications quand vous êtes accidenté pour les problèmes de procréation, mais voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus.
Et vous le dites même, parfois il y a beaucoup de séparations, malheureusement. Frédéric, c'est quoi le principe de l'émission de ce soir? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Vous dites que cela a été une des expériences les plus fortes de votre vie. Moi j'ai vu l'émission, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, qu'est-ce qu'ils vont découvrir?
Alors moi j'ai besoin de vous demander, puisque vous l'avez vu et c'est toujours plus fort dans votre bouche, au-delà de ce que... Voilà, je vais expliquer le principe, mais vous, qu'est-ce que vous avez ressenti et
ça vous a plu? Je vous le dirai après. Moi déjà j'aimerais savoir comment vous avez choisi les personnes handicapées, d'où viennent-elles?
Il y a un truc très important, fou, effectivement.
Et j'ai pas bien compris pourquoi, mais je trouve ça très intéressant. Pourquoi personne ne se connaissait avant l'émission?
Alors voilà, c'est pas un concept de télévision. Faut savoir qu'en fait, depuis 9 ans maintenant, l'association de Mickaël organise une vingtaine de séjours par an pour, encore une fois, ces deux populations, les personnes en fauteuil et les personnes valides. Et en fait, en vérité, moi j'ai dû lâcher prise, parce que c'est pas une émission de télévision. Les gens n'ont pas été choisis ni castés. En fait, c'est l'association qui les a choisis pour ce séjour et qui a dit, est-ce que vous accepteriez que ce soit filmé? Et ils vont d'ailleurs découvrir pour la plupart d'entre eux le film ce soir en même temps que les téléspectateurs. Et donc en fait, je me suis laissé porter comme les autres, et celui qui a pris la main, c'est Mickaël. Au fond, je ne savais pas qui j'allais rencontrer, ni ce que j'allais faire, et donc les rôles se sont inversés, et moi qui suis dans le contrôle d'habitude, je peux vous dire que c'était un lâcher prise assez vertigineux, pour tout vous dire.
Frédéric, à un moment donné, vous êtes dans une discussion à bâton rompu, vous êtes avec un petit groupe, il y a deux garçons qui sont là, une fille, tous les trois sont sur un fauteuil, et ils se racontent.
Moi j'ai eu la chance, entre guillemets, de me planter, j'étais jeune, j'étais dynamique et sportif, et je sais que ça m'a aidé, quoi. Si j'avais pas été comme ça, j'aurais eu plus de difficultés, quoi, c'est sûr.
T'avais quel âge?
17, j'allais avoir 18. Donc quoi, c'est vraiment propre à chacun, quoi.
Et t'as dit le mot chance. Ouais. C'est marrant, je vous ai tous entendu dire, moi j'ai la chance de...
Bah ouais.
Vous avez toujours la sensation que vous avez de la chance par rapport à...
À partir du moment déjà où tu peux être autonome, t'as de la chance. À partir du moment où t'es pas dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne, putain, t'as une putain de chance. Enfin, moi je le vois comme ça.
Ah ouais, je suis d'accord.
Alors, vous me posiez une question, je vais y répondre. Quand on voit l'émission, c'est une formidable leçon de vie. Il y a certains qui racontent qu'ils ne pensaient jamais pouvoir bouger les bras ou les mains. D'autres qu'ils sont restés un an sans pouvoir parler. Ça donne une patate pas possible. Dès le deuxième jour, ils ont fait du jet ski. C'était les handicapés qui pilotaient, pas comme passagers. À un moment donné, il y a une fille qui est tombée à l'eau. Vous avez eu peur, Mickaël ?
Non, pas du tout. C'est Catel qui tombe à l'eau. C'est la casse-cou du groupe. Non, parce qu'on sait qu'on fait ça en sécurité. Et puis le jet ski, même si ça peut être une activité dangereuse, bon, bah heureusement c'est sur l'eau, donc elle tombe dans un virage parce qu'elle va trop vite et puis elle remonte.
Parce que nous, en tant que téléspectateurs, on a peur pour elle. On se dit oh là là, qu'est-ce qui va se passer?
Mais justement, c'est aussi ce qui se passe dans le film, c'est que vous allez découvrir des choses que dont vous n'avez pas l'habitude de voir et qui des fois peuvent vous mettre mal à l'aise, qui des fois vous font vous poser des questions. Et en réalité, tout de suite, vous êtes rassuré. Tout de suite, on vous explique. C'est un film qui est aussi très pédagogue, c'est-à-dire que on a beaucoup d'a priori, on a beaucoup de peur face au handicap, et en fait, ça répond à toutes les questions. Ouais. Et pour revenir sur l'extrait que vous venez de diffuser, en fait, c'est ça qui est super intéressant. Moi, quand j'ai eu mon accident il y a 20 ans, au bout d'un mois, je sors de l'hôpital, je vais en centre de rééducation. Moi, j'étais paraplégique et je pensais que c'était la fin du monde. Et au bout d'une semaine en centre de rééducation, on me met avec une personne tétraplégique, c'est-à-dire une personne paralysée des membres inférieurs et supérieurs, qui n'était pas autonome, qui ne pouvait pas faire grand-chose toute seule. Et en 24 heures, avec lui, j'ai déjà commencé à relativiser sur le fait que j'avais de la chance et j'étais un privilégié. C'est ce que eux disent aussi, et pourtant, ayant une pathologie plus finalement grave que la mienne. Donc il y a toujours de quoi un moment relativiser, prendre du recul par rapport à votre existence.
Il y a une séquence incroyable, vous apprenez aux handicapés comment se tenir à la verticale avec seulement deux roues sur un fauteuil. Je vous dis que ça, l'ambition de l'émission, c'est changer le regard. Et notamment, vous parlez de ça, vous parlez de notre regard à nous de gens valides. Il y a Céline qui dit, j'ai pas besoin qu'on m'aide, mon fauteuil a pas de poignée, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Et c'est la question qu'on se pose tous, comment faut-il se comporter lorsqu'on est valide?
Bah en fait, on a toujours essayé d'imaginer si on pouvait pas proposer un guide des bonnes pratiques de comment se comporter avec des personnes en fauteuil. Et en fait, c'est un peu casse-gueule parce qu'il n'y a pas de règles définies de comment on voudrait tous que les gens se comportent avec nous. Par contre, il y a des interdits.
Allez-y.
Il y a des choses qui ne se font pas. Bah en fait, on n'est pas des caddies. C'est-à-dire qu'en fait, on ne nous pousse pas si on ne nous a pas proposé de l'aide et si on ne nous l'a pas demandé auparavant. Comme ça m'est arrivé, moi, des dizaines de fois dans des supermarchés, dans une file d'attente, des gens qui voudraient pas qui ont peur de vous déranger et qui vous poussent.
Et en même temps,
quand vous rencontrez quelqu'un à une caisse du supermarché, une personne en fauteuil qui fait ses courses comme tout le monde, si vous arrivez à une caisse du supermarché, bon, à part si on vous reconnaît, on va vous dire bonjour, vous allez, et puis ensuite, on va vous donner le prix, vous allez payer, vous allez dire merci, bonne journée. Nous, on va vous regarder. Ah, mais qu'est-ce qui vous est arrivé?
Ouais.
Même de juste vous dire bonjour, qu'est-ce que vous avez? Bah, je sais pas, il m'a pris l'idée de faire des courses ce matin. Et là, la personne, évidemment, elle me regardait un peu gênée, mais sauf qu'en l'occurrence, elle veut juste savoir pourquoi je suis en fauteuil roulant.
Mmh.
Et c'est ce que Frédéric aussi a découvert, et à travers les témoignages des participants, c'est que vous demandez à des gens, avant même de faire connaissance avec eux, de revivre leur drame, parce que pour la plupart, et quasi pour la plupart, pour tout le monde, ça a été un drame, que ce soit une maladie ou un accident, et vous leur demandez comme ça, de but en blanc, sans préliminaire, de raconter à nouveau ce drame-là. Et ça peut arriver 10, 15 fois dans une journée.
Ouais.
Donc il y a effectivement un certain nombre de comportements à ne pas avoir, mais en fait, l'idée c'est de banaliser la différence, c'est-à-dire qu'une personne en fauteuil roulant dans notre société peut avoir accès, de manière normale, comme les autres, à la citoyenneté, à la société, et sans qu'à chaque fois on lui pose des questions qui sont embarrassantes, qu'on lui demande des choses qu'on ne devrait pas lui demander, qu'on ne ferait pas finalement avec d'autres personnes.
Exactement.
D'avoir un comportement finalement assez naturel.
Exactement. Michael Jérémias, vous parliez de préliminaires et je réalise qu'on n'a même pas parlé de sexe. Vous restez avec nous, Frédéric Lopez. C'est l'émission Comme les autres. On en parle dans quelques instants. Je savais que ça vous plairait ce programme dans Culture Média. Tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
Comme les autres, c'est ce soir à 21h sur France 2 et c'est une émission vraiment pas comme les autres avec Frédéric Lopez et Michael Jérémias qui sont nos invités. Vous allez en Corse, vous êtes une dizaine, 5 valides et 5 personnes sur des fauteuils, vous rencontrez, faire des activités qu'on va détailler, vous parlez de vos problèmes et de ce qui n'est pas un problème, vous avez abordé tous les sujets, en tout cas beaucoup, y compris le sexe, et pendant le dîner, vous avez fait un barbecue, les filles parlent ouvertement de leur vie sexuelle, et contrairement aux idées reçues, cette vie sexuelle ne s'arrête pas avec le handicap, la preuve avec Katel, elle a 46 ans.
Pour te dire, ma première fois avec quelqu'un d'autre, ça a été génial. C'était pleine lune, des étoiles de partout. On était en bord de mer et waouh. Et ça m'a donné vachement confiance en moi. Mais je vais pas brancher les mecs en fait. Enfin, ça se passe comme ça et puis ça se passe bien. Quoi. Enfin, je veux dire, enfin, ça me pose pas de problème particulier. Même si évidemment c'est différent, même si évidemment je leur fais un petit briefing avant. Je leur dis bah voilà. Ouais mais voilà c'est ça. Tu vois.
Message d'espoir au sujet de la sexualité, les garçons, vous faites parler les filles, mais vous ne faites pas parler les mecs, en tout cas au montage. Pour quelle raison? Est-ce que c'est indécent d'en parler ou alors est-ce qu'il y a un non-dit sur le sujet, un tabou? La sexualité n'est pas la même car parfois, malheureusement, il faut le dire, le handicap peut interdire l'érection. Pour quelle raison les types, les garçons ne parlent pas de sexualité, seulement les filles dans le documentaire?
En fait, Michael, je te laisse répondre.
Non, mais c'est pas un problème de montage, c'est qu'en fait, l'extrait que vous prenez, c'est le soir où on a parlé de sexualité, c'est venu par hasard. C'est
ouais.
Maïlys qui a lancé la,
bien sûr.
Qui a lancé la discussion.
C'est un très bon sujet.
Poser des questions.
Mais j'aurais bien aimé entendre les garçons.
Oui, ben, mais sauf qu'en fait, les garçons, à ce moment-là, se manifestent s'ils ont quelque chose à exprimer. On ne les interviewe pas. Hein. C'est un séjour où les gens partagent des moments ensemble. On n'est pas là pour aller traquer quoi que ce soit. La réalité, effectivement, c'est que la question de la sexualité, quand vous êtes un homme ou une femme paraplégique ou tétraplégique, est un enjeu que vous ayez 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Il n'y a pas de limite d'âge. Et donc, oui, il peut y avoir des conséquences. Vous parliez de soucis d'érection pour les hommes. Ça peut être une des conséquences pour les paraplégiques et tétraplégiques, mais pour lesquels il y a des solutions. Pour les femmes aussi, la question du rapport au corps, la question du rapport au toucher, la question des positions, ce que raconte Catel avec humour, qu'elle fait un petit briefing avant. Évidemment qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent différer, mais au final, une personne handicapée a le droit à la sexualité, a le droit à l'amour, a le droit à la séduction, a le droit au plan cul, a droit à tout ça. Et voilà, et c'est ce que ça raconte. Et en fait, ce qui se passe, quand vous venez avoir un accident, vous avez besoin d'être rassuré. Et c'est aussi l'intérêt d'avoir, sur tous les séjours qu'on organise, une personne handicapée qui s'est réalisée dans sa vie de personne handicapée. C'est moi qui joue finalement ce rôle-là. C'est de celui un peu on appelle ça la permulation. Moi, c'est d'expliquer en fait que je connais ces étapes-là puisque je les ai vécues avant vous. Donc, je vais vous raconter ma vie, celle de tous les gens que j'ai rencontrés. Et voilà. Et donc, en fait, on les rassure et on leur fait gagner un temps précieux dans leur reconstruction.
Frédéric Lopez, vous étiez simplement le passager de cette émission. Vous avez participé au montage, à la production. Est-ce que vous avez accès pour dire les choses différemment? Est-ce que vous avez accès au montage, par exemple?
Alors effectivement, j'ai laissé faire David Perret, le réalisateur, et puis Fanny Guillard-Norel, qui a écrit le film et qui avait même été faire un séjour avant. Les réunions à France 2 ont eu lieu sans moi, c'était terrible, et j'ai assisté à un premier montage. Après, ce qui s'est passé, c'est que je suis intervenu sur le début du film, parce que rendre attachant 12 personnes d'un seul coup, c'est pas facile, et donc effectivement, ça demande des petits ajustements. Mais moi, j'ai découvert le film un peu comme ce que David avait envie de raconter de ce que j'ai vécu, et moi j'étais un passager, comme vous. C'est-à-dire qu'au fond, de vous entendre parler avec Michael là ce matin, moi c'est ma grande victoire. C'est-à-dire que Michael, il a aucun tabou, il dédramatise tout, il fait beaucoup d'humour, et donc en fait ça permet de mettre à l'aise. C'est-à-dire qu'on a, moi j'étais intimidé, j'avais peur de dire des bêtises ou de blesser, etc. J'avais peur peut-être même de voir de la souffrance et de me sentir impuissant. Ça n'est jamais arrivé, et j'ai vraiment besoin de dire aux auditeurs qui se disent oulala, ça c'est pas pour moi, moi ça me met à l'aise. Et bien que s'ils regardent le film ce soir, vraiment ils feront partie de ceux qui ne détournent pas le regard et qui ne détourneront plus jamais le regard. Et c'est quelque chose d'assez incroyable. Je pense qu'il y aura un avant, un après pour ceux qui regarderont le film ce soir. Et puis je sais qu'il y a Harry Potter sur TF1. Nous aussi, on vole dans le film, je peux vous le dire. Mais ça, c'est une surprise.
Ils meurent tous à la fin ce soir.
Harry Potter. Mais non, il ne faut pas spoiler Harry Potter. Moi, je vais spoiler la fin. Personne ne meurt. Frédéric, on vous voit avec des handicapés qui racontent la manière dont ils perçoivent leur handicap, la manière dont ce handicap affecte leur famille. C'est parfois très douloureux. Et l'un d'entre eux vous demande ce que vous en pensez. Et là, Frédéric Lopez, vous parlez de votre fils qui a 23 ans, qui est valide. Et à ce moment, pourtant, vous êtes au bord des larmes. Pour quelle raison?
Je le raconte ou on entend? Je le raconte?
Ouais. Pourquoi vous êtes au bord des larmes?
C'est Quentin qui a 27 ans aujourd'hui qui raconte son accident quand il avait 17 ans. Il explique en fait de manière très très belle et très pudique qu'en fait c'était évidemment douloureux de se retrouver dans une nouvelle situation. Il y avait beaucoup d'inconnus, le regard des autres. Mais ce qui a été difficile pour lui, c'est parfois de vivre aussi la descente aux enfers de gens très proches, parce que forcément c'est quelque chose de très dur pour eux aussi. Et ça m'a envoyé un message, une leçon de vie incroyable. C'est que j'ai réalisé qu'en fait, si ça arrive à mon fils, s'il arrive quelque chose comme ça aux gens proches et même une maladie, en fait notre devoir c'est d'aller bien pour pas que ce soit une double peine pour eux. Et ça, c'était juste, il avait rien à me transmettre, il l'a raconté comme ça, et ça a été bouleversant, parce que j'ai réalisé en fait qu'effectivement on se demande comment faire quand quelqu'un traverse quelque chose de difficile, et une manière de soutenir, c'est d'aller bien. C'est ce qu'il nous a raconté hier soir, en fait, voilà. Ça passe, pardon, j'ai dans la tête depuis septembre, et j'ai revu hier soir, mais ça passe ce soir pour tout le monde.
Exactement, ce soir. Alors, Michael Jérémie, allez-y.
Ouais. Non, c'est un sujet extrêmement fort. Moi, j'étais pas là pendant cette discussion, puisque c'est ça qui est très fort dans le film, c'est qu'en fait, les équipes étaient là, et puis nous, on vit notre vie. Et c'est une captation de ce qu'on a vécu pendant une semaine. Et en fait, moi, j'ai découvert ça en visionnant le film, évidemment. Et donc, en fait, cette séquence, elle est très forte, parce que c'est ce que dit Fred, c'est que c'est la double peine. C'est-à-dire que nous, on doit gérer notre souffrance, et qui dure ce qu'elle dure. Des fois, elle dure une vie, des fois, elle dure un an, 3 ans, 5 ans, l'acceptation du handicap. Mais aussi, on doit aussi gérer la souffrance de nos proches. Et là, pour le coup, on n'a pas la main là-dessus. Et donc, en fait, on se doit de rendre, finalement, et de renvoyer à nos proches une image finalement qui est peut-être pas celle qu'on vit, pour les protéger. Et aujourd'hui, un des enjeux, c'est l'accompagnement. Moi, je les appelle pas les aidants, je les appelle les aimants. C'est l'accompagnement des aimants et d'être là. Et c'est ce que nous aussi, on commence à proposer avec l'association comme les autres, c'est d'aider. et d'accompagner les personnes qui souffrent aussi, c'est-à-dire toutes les personnes qui aimaient la personne accidentée. Ouais. Et donc ça peut faire des fois beaucoup de monde. Donc c'est un vrai enjeu aussi.
L'émission est très feel good, politiquement correcte. En revanche, ça m'a amusé. À part la plongée sous-marine, il y a 4 grandes expériences ressenties par les gens sur un fauteuil. Ils font du jet ski, du quad, du deltaplane à moteur, ensuite carrément de l'hélico. Et je me dis, les gars, vous avez un très très mauvais bilan carbone. Vous allez vous faire détester par les écolos. Blague à part.
Michael,
vous voulez dire quelque chose, Michael, là-dessus?
La tête de Greta, il peut expliquer pourquoi quand même. Il peut expliquer pourquoi ce sont des.
Oui, sports, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est quand vous avez un accident de la vie, que vous retrouvez un fauteuil roulant, il y a un certain nombre d'horizons qui se ferment, d'environnements qui se
bien
ferment, d'accès qui ne sont plus, qui ne sont plus abordables en fauteuil roulant. Quand on se retrouve à se balader encore, c'est qu'on est sur des quads. Effectivement, ce sont pas des quads électriques. S'il y avait des quads électriques, on les aurait évidemment utilisés. C'est qu'en fait, cet environnement-là, si vous avez envie d'aller vous balader à pied, d'aller faire une grande randonnée, vous pouvez le faire. Nous, on peut pas. C'est-à-dire qu'il y a des environnements qui deviennent de fait inaccessibles. La société globalement, elle est inaccessible aux personnes en fauteuil roulant, et pas que dans des chemins corses, hein, mais même en pleine ville et en pleine capitale parisienne. Et donc la réalité, c'est que pour aller justement explorer, il faut utiliser des engins comme ça. Et puis aussi, un des enjeux, c'est de dynamiser des personnes qui se retrouvent en centre d'éducation, qui viennent d'en sortir, où on leur a dit qu'ils pourront plus faire un certain nombre de choses, où on leur dit qu'il y a des obstacles un peu partout. Et quand vous êtes capable de vous jeter d'un avion pour faire du saut en parachute, de faire du jet ski, de faire de la plongée, de sortir finalement d'une zone de confort et d'aller faire des choses qui créent de l'adrénaline, et grâce aussi malheureusement souvent à des produits polluants ou des outils polluants, ça permet aussi de recommencer ce parcours-là de reconstruction dynamique et qui va à un moment le faire que on n'a plus peur de monter ou descendre un trottoir et de s'aventurer dans la cité.
Exactement. Frédéric Lopez, on va parler télévision d'un mot. Vous avez abandonné la présentation de Rendez-vous en Terre Inconnue. Vous avez dit que vous ne vouliez plus faire d'antenne. Et puis, selon le Parisien d'hier, vous allez présenter lundi un nouveau projet à France Télé. De quoi s'agit-il ? Un magazine engagé, dit-il.
Oui, en fait, vous savez qu'avec la période qu'on est en train de vivre en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements dans les comportements. Tout le monde se demande à quoi va ressembler le monde d'après. Et j'ai l'impression que tout le monde a envie de la même chose. Tout le monde rêve d'un monde plus juste, plus solidaire, avec le respect du vivant, du règne animal, de la terre. Sauf qu'il y en a qui y croient et il y en a qui n'y croient pas. Ouais. Et comme disent les acteurs du changement, j'ai un ami qui s'appelle Mathieu Baudin qui a créé l'Institut des Futurs Souhaitables. Il dit, ceux qui pensent que ça n'est pas possible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Et moi, j'ai envie d'accompagner les gens qui se lancent dans l'action depuis un petit moment maintenant, qui sont les acteurs du changement, qui font bouger les lignes. Et ça s'appelle du journalisme d'impact. Et je pense que c'est contagieux qu'on peut faire du call to action, comme disent les anglo-saxons, et que la télévision peut permettre de montrer des solutions locales et de faire ce qu'on appelle une mise à l'échelle. Donc oui, je pense que la télévision peut devenir citoyenne. Et voilà, je vais présenter ce projet à France Télévisions. Je serais très, très fier si le service public se lançait là-dedans. J'en avais parlé un petit peu à la présidente Delphine Ernotte. Elle était assez emballée par l'idée. Donc voilà, c'est pas signé. J'espère que ce sera fait. Mais je serais très, très, très heureux de pouvoir être aux côtés de ceux qui veulent changer le monde aujourd'hui et qui sont dans l'action. Qui ont choisi d'être acteurs et pas témoins.
Si vous voulez dire quelque chose en attendant lundi, profitez-en parce que très souvent, les gens de France 2 et de toutes les chaînes d'ailleurs écoutent Culture Média. Vous voulez dire quelque chose à Delphine Ernotte, allez-y, il reste 30 secondes.
Delphine Ardant, je l'aime beaucoup. Je trouve que le service public s'est très très bien débrouillé pendant cette période-là. Franchement, on a trouvé notre place dans la société. Et je pense qu'on a tout intérêt à accompagner ceux qui y croient parce que sinon, ils sont dans l'angle mort effectivement des médias.
Vous serez à l'antenne
oui ou non. Si jamais ça fait partie de l'engagement, si c'est être à la hauteur, et si la chaîne considère, parce que moi j'ai
non mais d'un mot, il me reste 30 secondes,
si
même pas.
Considère que c'est...
Vous serez à l'antenne, oui ou non.
Si je vais le faire, j'irai parce que j'ai besoin. Si la chaîne dit OK, j'irai.
Le gars qui avait promis qu'il ferait plus jamais d'antenne. Merci. D'un mot, il me reste 5 secondes.
Et 5 secondes si vous voulez soutenir l'association parce que c'est quand même très important. Vous pouvez faire un don sur le site commelesautres.org.
Ça, c'est des vrais 5 secondes. Prends-en de la graine, Frédéric Lopez. Merci beaucoup, Michael Jérémias. Merci, Frédéric Lopez. Je rappelle, Comme les autres, c'est ce soir à 21h sur France 2. Merci d'avoir été avec nous, les garçons, en direct. On va retrouver Hélène Manary.